Sud Radio, le débat de la semaine.
Le débat de la semaine, Emmanuel Macron doit-il, devrait-il se rendre à Kiev cette semaine? C'est la question qu'on vous pose, on vous propose de donner votre avis sur le Twitter de Sud Radio. Vous répondez non à plus de 70% d'entre vous. Vous continuez à voter. Effectivement, un déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, ça aurait pu se faire cette semaine. A priori, ce ne sera pas le cas, sauf surprise. Le président de la République devrait malgré tout se rendre à la frontière ukrainienne, notamment en Moldavie et en Roumanie. On continue à parler de la situation diplomatique, les relations fraîches entre l'Ukraine et la France qui tentent à peine à se réchauffer. Mais parlons aussi de la situation militaire puisqu'elle semble évoluer. Bonjour Dominique Trinquant.
Bonjour.
Bonjour mon général, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui affirme que des combats acharnés se déroulent toujours dans le Donbass, dans la ville de Severodonetsk, où les combats de rue même ont lieu en ce moment. En revanche, l'armée ukrainienne qui semble avoir lancé une offensive, même si elle paraît limitée, dans la région de Kherson. Là, on est plutôt au sud.
Oui, tout à fait. La région de Kherson, en fait, c'est la limite ouest de la progression russe sur le Dniepr, en direction d'Odessa. Kherson a été conquis quasiment dès le départ par les forces qui venaient de Crimée. Et les Russes n'ont pas réussi à progresser plus avant. Les contre-attaques aujourd'hui, il faut prendre les choses avec prudence parce qu'elles sont très limitées. Et que la Russie est en train d'organiser l'annexion en fait de toute cette région située entre Kherson, c'est-à-dire entre le Dniepr et le Donbass, pour l'annexer à la Russie et faire ainsi de la mer d'Azov un lac russe.
Exactement. Et d'ailleurs, des rumeurs de l'organisation d'un pseudo-référendum où les habitants qui sont restés dans la région seraient appelés à voter pour soit l'indépendance d'une pseudo-république, soit leur attachement à la Russie. Ces rumeurs sont de plus en plus insistantes. C'est un scénario qui devrait arriver d'ailleurs.
Oui, probablement. Ça permettra d'avoir une continuité territoriale entre la Crimée et le Donbass et de conquérir, d'avoir sous la responsabilité russe l'ensemble de cette zone qui est extrêmement importante aussi au point de vue économique.
Effectivement, Kherson d'ailleurs c'est la principale ville ukrainienne qui est tombée aux mains des Russes avec la ville de Mariupol. Mariupol ça a pris des semaines, ça a été épouvantable. Kherson ça s'est passé en quelques heures et manifestement presque sans coup fait rire pour les Russes dans les premières heures de leur offensive. Christian Macarian nous a rejoint, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste, chroniqueur international au magazine Le Point et éditorialiste chez nos confrères de Radio Notre-Dame. Bienvenue à vous sur Merci. Sud Radio. On le disait à l'instant avec le général Dominique Trinquant, le projet russe qui semble bel et bien être l'annexion des régions occupées.
Alors, tout le nœud se trouve là. Quel statut Vladimir Poutine va-t-il réserver une fois que la conquête militaire sera achevée, en particulier dans le Donbass? Il faut rappeler que s'il est tout près d'obtenir la totalité de l'oblast de Lugansk, il lui reste encore une partie assez significative, environ un tiers ou un quart de l'oblast de Donetsk, qui se trouve plus au sud, à conquérir, d'où la bataille de Severodonetsk et celles qui vont probablement suivre. Mais est-ce que Vladimir Poutine va annexer ces territoires, donc élargis à partir des deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk? Va-t-il acquérir tout cela au titre de la Fédération de Russie, procéder à ce qu'on appelle à une annexion? Auquel cas, dès l'instant où ce sera annexé, toute attaque contre ces territoires sera considérée comme une attaque contre la Russie, ce qui placera les alliés occidentaux dans une situation assez critique. Pour aider les Ukrainiens.
Et voilà qui serait bien pratique d'ailleurs. Je prends un territoire par la force, je l'occupe, je dis ensuite qu'il est à moi, et si on essaye de me le reprendre, je dis que je suis attaqué, donc je me défends. C'est quand même une dialectique assez rusée.
Et je fais même monter de plusieurs crans la menace.
Exactement.
Vous voyez à quoi je pense. Voilà. Donc, au pire des pires. Ça, c'est un scénario catastrophe. L'autre scénario serait que Vladimir Poutine n'annexe pas et qu'il laisse ses territoires, même amplifié par l'occupation russe, dans un statut intermédiaire qui lui permettrait tout le temps d'avoir un levier sur Kiev et de tenir en quelque sorte Zelensky et tout le système ukrainien sous sa botte, sous sa menace. C'est là que nous n'avons pas la réponse. Est-ce que ça va être une annexion? Est-ce que ça va être juste une occupation, il va falloir qu'on attende encore un peu pour en savoir davantage. Mais ça dépendra aussi de l'évolution de la situation globale. Pour l'instant, Poutine semble utiliser plusieurs fers au feu, dont un qui est l'arme de la faim. Les livraisons de blé au reste du monde.
On va y revenir d'ailleurs. On va y revenir dans quelques instants, notamment sur cette proposition française de lever le blocus du port d'Odessa pour permettre d'écouler les cargaisons de blé ukrainien qui restent dans le port. Dominique Trinquant, vous êtes toujours avec nous, mon général.
Oui.
Autre question, on parle d'annexion russe ou de possibilité d'annexion russe sur les territoires occupés. Revenons sur le plan militaire. Techniquement, les Ukrainiens n'ont pas les moyens militaires de reprendre le terrain perdu.
Aujourd'hui, non, absolument pas. Vous parliez des combats qui sont à Severodonetsk, qui sont les combats de la dernière chance à l'est de la rivière Donetsk. Lorsque cette ville sera conquise, tout Luhansk sera sous l'occupation russe. Et je pense que ces combats, les vrais combats, doivent continuer au-delà du Donetsk. Et la question est de savoir si les Ukrainiens sont suffisamment préparés pour arrêter les Russes, parce que les Russes ont concentré tous leurs moyens dans cette région. Et donc, c'est le rouleau compresseur, en particulier avec l'artillerie, qui progresse.
Effectivement, qui est la grande force de l'armée russe. Vous avez employé l'indicatif et non le conditionnel. Lorsque cette ville sera conquise, ça ne fait aucun doute pour vous, mon général, que la ville de Severodonetsk, à terme, va tomber.
Oui, bien sûr. Elle a été quasiment complètement conquise. Il y a eu une petite contre-attaque très limitée. La seule zone qui n'est pas conquise, c'est la zone de l'usine qui est située au sud-ouest et qui s'appuie sur le Donetsk. Et enfin, c'est ma vision. Je souhaiterais que les Ukrainiens ne fassent pas comme à Mariupol, c'est-à-dire qu'ils perdent tous les combattants qui sont dans cette zone parce que le combat est perdu. Il était perdu à Mariupol. Ça a été un combat héroïque et je tire mon chapeau aux défenseurs. Ceci étant, ils ont perdu 1500 soldats qui sont prisonniers maintenant des Russes. Et ils ont besoin de ces soldats pour combattre à l'ouest du Donetsk.
Et les réserves humaines de l'armée ukrainienne ne sont pas infinies. Restez avec nous, l'un et l'autre. Général Dominique Trinquant, je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Christian Macarian est également avec nous, chroniqueur international au magazine Le Point, éditorialiste par ailleurs chez nos confrères de Radio Notre-Dame. Le débat de la semaine sur Sud Radio, on vous pose cette question à vous qui nous écoutez. Emmanuel Macron doit-il se rendre en Ukraine cette semaine? Devrait-il s'y rendre? En tout cas, vous votez sur Twitter. Pour l'instant, vous répondez non à une majorité d'entre vous. Pourquoi les relations sont si fraîches entre Kiev et Paris? C'est ce qu'on va demander à Christian Macarian dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, le débat de la semaine.
Emmanuel Macron devrait-il se rendre en Ukraine cette semaine? Question qu'on vous pose, à laquelle vous répondez non à une large majorité d'entre vous. Le point sur la guerre en Ukraine et les relations diplomatiques entre Paris et Kiev, entre Bruxelles et Kiev aussi. Parlons-en avec nos deux invités. Nous sommes avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes aussi avec Christian Macarian, chroniqueur international au magazine Le Point et éditorialiste chez nos confrères de Radio Notre-Dame. Le débat de la semaine sur Sud Radio, Christian Macarian, Ursula von der Leyen en Ukraine pour évoquer la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce que c'est une perspective crédible et rapide?
Alors non, ça n'est pas une perspective rapide, mais il ne s'agit pas d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Il s'agit d'accorder à l'Union européenne le statut de candidat, c'est-à-dire que ça prendra encore de nombreuses années une fois que le statut de candidat sera octroyé. Donc, est-ce que là, dans les jours qui viennent, donc dans les réunions qui sont prévues la semaine prochaine et qui devraient donner lieu à des débats à partir du 23 juin, est-ce que l'Union européenne va accorder le statut de candidat à l'Ukraine de façon à ce que, disons raisonnablement, dans un délai d'une dizaine d'années approximativement, on puisse envisager cette adhésion? Il y a encore beaucoup de travaux à accomplir pour remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne. La neutralité de l'État, l'État de droit, la lutte contre la corruption, la justice impartiale. Il y a encore beaucoup, beaucoup de conditions à remplir. Et puis, tout le volet économique qui est gigantesque, normatif, technique, technologique. C'est très compliqué d'adhérer à l'Union européenne. C'est un statut apparemment enviable puisque beaucoup de nations tapent à la porte. Alors, il y a des obstacles et c'est ça qui va être en cours de discussion toute la semaine. Je crois qu'on peut raisonnablement espérer que l'Ukraine obtienne un statut de candidat. Et après, on verra step by step, étape par étape.
Ça prendrait 10 ans, dites-vous. 20 ans, avait même dit le gouvernement français il y a quelques
semaines. Oui, moi j'ai choisi l'option rapide.
Oui, c'est l'option, voilà. C'est et 10 ans rapide. Pour l'Europe, c'est rapide, en tout cas pour rentrer dans l'Europe. Dominique Trinquant, est-ce que ça ne nous mettrait pas, imaginons que dans 10 ans, eh bien, une partie des territoires ukrainiens soit toujours occupée par les Russes, est-ce que ça ne mettrait pas l'Europe en porte-à-faux? Après tout, ce serait compliqué d'avoir un État membre à qui nous devons pleine solidarité et dont le territoire serait en partie occupé par une puissance étrangère.
Oui, alors écoutez, je suis d'abord tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que sur le plan symbolique, il est important de marquer la cohésion autour de l'Ukraine et donc de lui aborder un statut pour rentrer à terme dans l'Union européenne. Maintenant, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce que c'est pas le moment,
pas
mais
demain.
La corruption en Ukraine est un sujet quand même à prendre à bas le corps.
Considérable.
Et donc, je pense qu'en revanche, il ne faut pas se faire intimider par la position que l'Union européenne pourrait avoir vis-à-vis de la Russie. Je veux dire, c'est quand même, il faut le garder à l'esprit, la Russie qui est agresseur.
Absolument.
Et donc, la cohésion des sociétés démocratiques aspirant au même, à la même organisation est importante à marquer. Et sur ce plan-là, il ne faut pas se laisser intimider par la position de l'État totalitaire, parce que c'est bien ça dont il s'agit, qui est installé en Russie aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas à la fois baisser nos standards, et donc un statut pour atterrir dans quelques années dans l'Union européenne est envisageable, donc, mais il ne faut pas non plus se laisser intimider par celui qui aujourd'hui veut nous ravaler au plan de vassal des États-Unis, ce que nous ne souhaitons pas être non plus.
Effectivement, en tout cas c'est le discours du gouvernement russe et de son président Vladimir Poutine. Christian Makarian, on pose cette question justement à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Emmanuel Macron doit-il, devrait-il se rendre à Kiev? C'est toujours pas officiellement au programme, ce sera un des derniers à y aller. Pourquoi ça aurait été si difficile?
Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, en tant que président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron doit tenir compte de l'avis de 27 nations. Alors, si les pays baltes et les pays d'Europe centrale sont très déterminés en faveur de l'Ukraine et très déterminés contre la Russie, c'est moins le cas des pays de l'Ouest de l'Europe, notamment le groupe de tête, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui font une démarche ensemble pour essayer de modérer les choses avec ce raisonnement qui est le suivant. De toute façon, tôt ou tard, il faudra sortir de cette guerre. Et pour sortir de cette guerre, il faudra parler avec le principal belligérant, avec l'agresseur, c'est-à-dire la Russie. Donc, si on veut discuter avec la Russie, il ne faut pas créer des conditions irréparables dès aujourd'hui. Ça, c'est un point de vue diplomatique. C'est ça qui a donné la fameuse phrase assez malvenue d'Emmanuel Macron, « Il ne faut pas humilier la Russie ». Phrase qu'il a payé d'ailleurs assez cher, parce que ça a provoqué
un scandale et des réactions quasiment injurieuses du gouvernement ukrainien.
Que cette question de se rendre à Kiev est un moyen ou de soutenir l'Ukraine militairement de façon plus avancée est un biais politique évident. Quand Boris Johnson soutient à fond l'Ukraine, il soutient à fond aussi l'Europe centrale contre l'Europe de l'Ouest, puisqu'il a organisé le Brexit. Donc lui, il veille à une certaine fracturation de l'Europe. En outre, Boris Johnson a un certain nombre de choses à se faire pardonner sur le plan de la politique intérieure. Donc il ne faut pas tomber dans ce genre de piège. Il y a un raisonnement français qui est différent, qui consiste à dire restons totalement déterminés en faveur de l'Ukraine, que nous aidons militairement, que nous aidons sur le plan humanitaire, que nous aidons sur le plan financier. Mais par exemple, on va aider aussi l'Ukraine sur le plan juridique à organiser le procès des crimes de guerre et les investigations qui vont avec. Donc la France est engagée. Il ne faut pas dire qu'elle n'est pas engagée aux côtés de l'Ukraine. C'est faux. Elle est très engagée. Mais elle veille à une position
médiane et modérée. Et en tout cas, elle ne sera jamais assez engagée auprès de l'Ukraine.
Voilà,
aux yeux des
Ukrainiens. Le projet de Macron pour l'Europe il a imaginé une collectivité politique, une communauté politique européenne, c'est-à-dire une sorte de deuxième étape pour la maison européenne qui permettrait à des pays comme l'Ukraine d'entrer dans la famille européenne sans être pour autant totalement membre à 100% de l'Union européenne.
Une forme de salle d'attente, c'est un petit peu cette vieille théorie, ce vieux concept.
Ça a fortement déplu en Ukraine et dans
évidemment,
toute l'Europe.
C'est un petit peu le vieux concept de l'Europe à deux vitesses qui a été souvent évoqué, un serpent de mer diplomatique. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Christian Macarian, qu'on entendait à l'instant, chroniqueur international au magazine Le Point, éditorialiste chez nos confrères de Radio Notre-Dame. Le général Dominique Trinquant, qu'on remercie également. Merci à vous, mon général.
Merci.
Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Restez avec nous dans quelques minutes. On va s'occuper de vous, de votre maison et de votre jardin. Tous au jardin, c'est dans un instant. À tout de suite.